Bonjour Luc.
Bonjour Jean-Sébastien.
Autre jour, autre primeur que tu nous annonces ici en exclusivité. Ce matin, on va parler du PLQ qui, on sait, bon, c'est la course à la chefferie, mais là, officiellement, on va annoncer ce matin la date et le lieu du déclenchement officiel de la course à la direction du parti.
Parce que là, on est un petit peu en pré-campagne présentement. Puis les gens ne sont pas officiellement candidats. Même Dominique Anglade, elle est aspirante candidate. Mais il y a un temps déterminé pour cette course-là. Alors là, le Parti libéral du Québec va annoncer ce matin, par communiqué, la date et le lieu où ça va commencer.
Et ça débute où?
Oh!
Pas ici toujours?
Pas n'importe où. Dans la plus belle ville du Québec, Sherbrooke. Alors, en toute objectivité, je dois dire que les libéraux ont fait un bon choix.
Ben là, c'est certain.
Nous autres, on est toujours contents d'accueillir la visite. Et ça va s'amorcer ici, le 23 novembre. Okay. Alors, il y aura un conseil général du Parti libéral du Québec les 23 et 24 novembre prochains, ici à l'Hôtel Delta. Et là, ça sera le début officiel de cette course à la direction du Parti libéral du Québec. Évidemment, le lieu, les dates, c'est pas le fruit du hasard. Il y a une réflexion. On souhaitait amorcer ça après la campagne électorale fédérale. Donc, l'élection aura lieu le 21 octobre. Mm-hmm. Et puis là, ben, évidemment, tu vas avoir de la visibilité pour la course. Fait que tu ne peux pas faire ça pendant les élections fédérales. Puis tu veux que les militants soient disponibles aussi pour aider différents candidats.
Ah, oui.
Là aussi, les militants vont être occupés à autre chose cet automne. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi le 23 novembre. Et on le sait, dans les règles qui ont été dictées, que la course doit durer au maximum 7 mois. Alors, ce qui veut dire qu'au maximum, le 23 juin, on saura qui dirigera le Parti libéral du Québec. Et ce qu'on sait également, c'est que le congrès, éventuellement, où la personne sera désignée chef, aura lieu dans l'Est du Québec.
Okay.
Et là, présentement, ce qu'on me dit au PLQ, c'est qu'on est en train de finaliser ça, de déterminer un endroit très précis. Puis une fois que ça sera fait, il y aura une date exacte et ça sera annoncé éventuellement.
Parce que tu l'as dit, c'est jamais le fruit du hasard. Qu'est-ce qui fait que le parti peut décider, par exemple, que bon, on débute ça à Sherbrooke et on va terminer ça dans l'Est du Québec? Qu'est-ce qui justifie ces choix-là?
Bien, tu sais, il y a toujours l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Hein? Puis même dans les conseils généraux au PLQ et dans les congrès des membres, il y a une alternance entre l'Est du Québec et l'Ouest du Québec. Et là, justement, de partir ça à Sherbrooke, c'est le message qu'on va envoyer aux régions. Et puis, je te l'ai déjà dit, hein, les régions vont occuper une place très importante dans la course à la direction du PLQ. On veut séduire les régions. Tu as vu Dominique Anglade a commencé sa tournée à Shawinigan. Alors, les candidats vont le faire, mais le parti va le faire également de son côté. Hein. On va envoyer un message positif aux régions. Alors, c'est pour ça qu'on choisit Sherbrooke. Puis, ben, nous autres, on est contents de les accueillir. Puis surtout, ça va être intéressant ce qui va se passer ici les 23 et 24 novembre, parce que là, c'est la ligne de départ. Donc, c'est fini les réflexions. Hein? Il n'y a plus personne là qui va me dire, ben moi j'y pense, puis peut-être, je vais y aller,
selon
puis je suis en train de mesurer
appuis.
Mes appuis. Puis... Non, parce que là, si tu n'es pas sur la ligne de départ le 23 novembre, tu es en retard. Fait que on va voir vraiment qui sera candidat rendu là. Et surtout, ils vont faire des démonstrations de force, les candidats. Hein? Ils vont faire des petits cocktails, vont réserver des suites, vont attirer militants. Puis là, c'est qui va en attirer plus que l'autre. Puis les gens vont être affichés aux couleurs de la personne qu'ils soutiennent. Alors, on va voir un petit peu quel est l'état des forces au point de départ. Donc, ça va être bien, bien intéressant à observer. Et puis, c'est intéressant que ça se passe chez nous parce qu'on va pouvoir aller voir ça facilement.
Sûrement.
Mais aussi, c'est toujours intéressant pour une région d'obtenir des événements comme celui-là parce que ça amène du monde, ça amène des retombées économiques, puis c'est des nuitées dans les hôtels, particulièrement au Delta, dans les restaurants aux alentours. Alors, c'est une bonne nouvelle pour notre région.
Là, on sait que Dominique Anglade sera de la course.
Oui.
Il y a Marois Risky également qui,
probablement.
Dit-on, devrait le faire.
Ben, en tout cas, si ça se termine comme ça, on pourra presque parler d'un couronnement.
Ça sera pas trop difficile pour Dominique Anglade.
Ça sera pas trop difficile, mais ça sera dommageable pour le Parti libéral du Québec parce qu'ils ont besoin d'une véritable course pour se renouveler, d'un véritable débat, d'une véritable mobilisation des membres. Et pour ça, moi, je pense que ça prend au moins une course à trois. Dans les circonstances actuelles, là, au moins une course à trois.
Et le prochain ou la prochaine chef aura assurément tout un défi à relever parce que là, selon un nouveau sondage Main Street Québec, aujourd'hui, on apprend que la CAQ est en avance, mais de beaucoup sur tous les autres partis, pas seulement les libéraux.
Non. Alors, sondage, oui, qu'on peut voir dans la tribune ce matin. Et puis, c'est rendu plus qu'une lune de miel. Là. Hein, c'est vraiment une relation très intense entre les Québécois et la coalition Avenir Québec. Écoute, ce matin, là, ils sont à 47,8% dans les intentions de vote. Hey, c'est énorme.
On n'a pas vu ça depuis très longtemps.
Depuis très longtemps.
C'est aussi populaire.
Et c'est 10,4% de plus que leur résultat à l'élection. Imagine, Ils ont réussi avec ça à faire élire 74 députés. Il y en a eu une 75e depuis dans une élection partielle dans Robertval en raison de la démission de Philippe Couillard. Mmh. Alors là, imagine-toi le nombre de députés qu'ils auraient aujourd'hui. Alors, ils feraient encore des gains supplémentaires. Et ce sondage-là survient justement après la première véritable session parlementaire du gouvernement où ils ont eu un premier budget, où ils ont fait adopter des projets de loi importants. Donc, c'est un petit peu le bulletin des Québécois à l'endroit du gouvernement, puis c'est presque une note parfaite. Parce ah oui. que lorsque tu regardes les détails du sondage, c'est que oui, il y a le résultat global, mais il domine dans presque tous les indicateurs du sondage. Donc, il domine autant chez les hommes, chez les femmes, dans tous les groupes d'âge, partout au Québec, à l'exception de l'île de Montréal. Puis encore là, habituellement, ça, c'est pas mal une forteresse libérale. Bien, la CAQ, elle est seulement 1,7 points en arrière.
C'est pas loin, là.
Alors, se rapproche beaucoup, là, au cours des derniers sondages. Puis si la tendance se maintient, bien, pourrait prendre la tête dans les intentions de vote à Montréal. Et puis, c'est là que tu comprends le nouvel intérêt du gouvernement caquiste pour Montréal, hein. Même Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, nous disait récemment, « Ah, ben on a revu un petit peu notre lecture sur Montréal. Il y a des choses qu'on voit différemment. » Puis là, tout d'un coup, il y a un intérêt pour la ligne rose. Alors, évidemment, tu comprends, en regardant les résultats de ce matin, pourquoi cet intérêt soudain pour l'île de Montréal du côté du gouvernement. Parce que là, maintenant, il y a un réel potentiel pour eux autres de faire des gains à Montréal en 2022. Alors, ils vont vouloir travailler ça au cours de leur mandat. Puis, c'est sûr que, oui, il y a une baisse à Montréal pour les libéraux. Dans le résultat global, ça paraît pas. Ils se maintiennent par rapport au sondage de mars. Même chose du côté du PQ puis de Québec solidaire. Là, globalement parlant, il n'y a pas de mouvement. Et ce qu'on doit dire, je pense, qui est important, là, en toute justice, pour le Parti libéral du Québec et pour le Parti québécois, c'est que c'est pas évident de performer dans les intentions de vote quand tu n'as pas un chef permanent.
C'est sûr.
Parce que les gens, ce qu'ils regardent, c'est regarde qui peut être premier ministre. Puis dans une élection, les gens se choisissent un gouvernement, mais se choisissent beaucoup un premier ministre ou une première ministre. Puis là, malgré le fait qu'ils font du bon travail, Pierre Arcan et Pascal Bérubé, les gens savent qu'ils ne sont pas sur les rangs à titre de chef de leur parti lors de l'élection de 2022. Fait que pour bien du monde, aujourd'hui, c'est pas une option envisageable. Alors, tu peux pas espérer de leur côté un gros mouvement dans les intentions de vote d'ici à ce qu'ils aient des chefs permanents, à moins que François Legault fasse un dogfight de lui-même et qu'il devienne très impopulaire. Alors là, tu sais, tu peux avoir du vote qui va ailleurs, mais ça devient une contestation à l'endroit du gouvernement. C'est ce qui se passe en Ontario présentement. Les libéraux provinciaux, pas de chef permanent, sont au sommet dans les intentions de vote. Mais en même temps, c'est davantage un vote de contestation à l'endroit des progressistes conservateurs de Doug Ford. Et pour l'instant, quand on regarde les données d'un matin, c'est pas vraiment parti pour ça, pour François Legault. Alors, tant que les péquistes puis tant que les libéraux n'auront pas de chef permanent, bien, ça va être difficile pour eux autres de grimper dans les intentions de vote.
Merci beaucoup, Luc. On se reparle lundi. Bon week-end.
À toi aussi. Profite-en bien.